France Musique. Rudolf Nureyev, le sceau de la liberté. Aéroport du Bourget, 16 juin 1961. La troupe du ballet du Kirov est dans le hall d'embarquement. Les amis français sont là aussi, à l'exception de Clara. L'avion à destination de Londres est prêt à embarquer. La troupe attend. L'atmosphère est tendue. Les agents du KGB nerveux. Un autre avion pour Moscou est posé sur le tarmac. Celui qui, depuis trop longtemps, n'en fait qu'à sa tête. Brave avec insolence les autorités soviétiques mandatées par Khrouchtchev. Celui-là même, qui vient de remporter le plus grand succès par son génie de la danse, doit monter dans cet avion. Être remis au pas de l'Union soviétique, non celui de son extraordinaire talent de danseur, mais celui de ses sbires qui le surveillent sans relâche. Rudolf Nureyev ne s'est pas couché de la nuit, il a profité, comme chaque soir, depuis plusieurs semaines, des charmes de Paris. Depuis l'arrivée de la troupe du Kirov à Paris, pour une tournée de plusieurs semaines, Rudolf Nureyev s'échappe continuellement au contrôle de ses autorités, membres du KGB. Il refuse de prendre l'autocar de la troupe pour rejoindre docilement l'hôtel ou pour visiter la capitale. En compagnie de ses nouveaux amis français, il va au restaurant, dans la boîte de nuit Le Crazy Horse, où il a peine à croire que toutes les danseuses sont nues. Il se rend dans le magasin de jouets, le Nain Bleu, où il achète un train électrique. Passe des heures et des heures au Louvre. Va seul au concert, salle Pleyel, où il découvre les cantates et les sonates de Jean-Sébastien Bach, jouées par le violoniste Yehudi Menuhin. Il se promène sur les quais de Seine, aux côtés de Clara Saint, Claire Motte et de Pierre Lacote, chorégraphe et danseur à l'Opéra de Paris. C'est lors de la réception en l'honneur du Kirov, le 16 mai 1961, qu'ils se sont présentés. Dans le foyer de la danse du Palais Garnier, les danseurs russes et français ne se parlent pas. Ils se savent observer. L'atmosphère se brise quand le jeune Nureyev, âgé de 23 ans, fend le rang des danseurs russes et s'approche des danseurs français. Il se présente à trois d'entre eux. Il les reconnaît. Claire Motte, récemment promue dans ses étoiles, s'est produite en Russie à plusieurs occasions. Dès les premiers jours, les étoiles Claude Bessy et Attilio Labis sont les seuls danseurs de l'Opéra de Paris à assister aux cours des Russes pour comparer les techniques et méthodes. Rudolf les accueille immédiatement dans sa famille artistique. Contrairement à leurs collègues, qui, indifférents, restent dans les studios voisins à travailler. Le 17 mai, lendemain de la générale de la Belle au bois dormant, le jeune critique de danse René Servin parle avec extase de ce jeune phénomène aérien, d'une virtuosité et d'une légèreté stupéfiantes. Son article dans le journal L'Aurore titre « Les ballets de Leningrad ont leur homme de l'espace ». Sans doute est-ce là une subtile allusion à Youri Gagarine, qui devient le 12 avril 1961 le premier homme dans l'espace. En pleine guerre froide, et alors que se dresse le mur de Berlin, l'URSS envoie donc deux hommes dans les étoiles, Gagarine et Nureyev. Ce n'est pas la première fois que l'Opéra de Paris cristallise les tensions de la guerre froide. La danse et la politique y apparaissent intimement mêlées. En 1954, suite à la mort de Staline en 1953, la première grande tournée parisienne est historique. 47 danseurs soviétiques issus des deux grands ballets, le Kirov de Leningrad et le Bolchoï de Moscou, se produisent à Paris. Quelques semaines auparavant, la troupe de la Comédie française est à Moscou et joue Molière et Corneille devant des salles combles. Mais la veille de la première représentation, le camp de Dien Bien Phu en Indochine tombe. Il s'agit d'une bataille décisive sur le terrain asiatique de la guerre froide. Les forces françaises affrontent le Viet Minh. Son dirigeant, le général Giap, a été formé en URSS. Le choix s'impose pour le chef du gouvernement français, la tournée est annulée. Cet épisode montre qu'un lieu culturel tel que l'Opéra de Paris est à la fois un terrain et un symbole politique. Paris et Londres sont alors les deux capitales emblématiques de l'histoire des spectacles en Europe. Elle constitue pendant la guerre froide les deux scènes primordiales pour l'URSS qui popularise son ballet en Europe occidentale. Des années 1960 jusqu'à la fin des années 1990, ces tournées sont le miroir des échanges entre les blocs. Elles sont minutieusement négociées en amont. Les délégations soviétiques choisissent de présenter un ballet issu de plusieurs siècles de tradition, modelé en Russie par des maîtres de ballet français comme Marius Petipa, avec une touche de soviétisme, sans que la tradition classique n'ait été remise en cause par le pouvoir depuis 1917. On distingue alors deux périodes, la période de 1954 à 1961 et celle des tests, des premières tournées, avec des tensions encore perceptibles comme l'épisode Dien Bien Phu. C'est la coexistence pacifique et une volonté d'ouverture de part et d'autre. La seconde période, de 1962 à 1968, correspond, elle, au début de la détente et aux prémices de la routine des tournées. À partir des années 1960, on assiste à de nombreux transfuges, ni espions ni militaires, mais artistes ou scientifiques qui décident de fuir le bloc soviétique. Malgré les années de dégel artistique en Union soviétique, le KGB, créé en 1954, exerce une véritable dictature sur la communauté artistique et intellectuelle. Rudolf Nureyev, alors danseur au sein de la troupe du Kirov, n'adopte aucune précaution de langage et manifeste ses mécontentements sans aucune retenue. Lors des préparatifs de la tournée de 1961, les autorités craignent donc ses colères, de ne parvenir à le contrôler, voire éviter sa défection. Mais l'impresario français veut de jeunes danseurs. En juin 1960, le nom de Nureyev apparaît dans un article sur le ballet publié dans The Atlantic Monthly. Le critique y décrit sa prestation du 12 décembre 1959 dans Gisèle et comment le Kirov se trouva littéralement assiégé. Nureyev danse le rôle d'Albrecht comme on ne l'a jamais vu. La tradition soviétique donne au personnage l'image d'un prince frivole. Nureyev, lui, apparaît en amant sincère et ardent du début à la fin du ballet, bouleversé par la folie et la mort de Gisèle. Le public est renversé par son désespoir palpable et la noblesse de son jeu. On ne peut oublier la scène finale de Nureyev, croyant encore retenir la main de Gisèle sur son visage. Sa danse est désormais reconnue comme révolutionnaire. Le danseur, lui, comprend qu'il a pris tout ce que la Russie peut lui apporter. Il se sent prisonnier des circonstances. Rudolf Nureyev exaspère les autorités tout au long de cette fameuse tournée de juin 1961 à Paris. Le danseur n'en fait qu'à sa tête, grisé par le vent de liberté qui souffle sur la capitale. Sur scène, son corps est mué par cette même insondable liberté, comme s'il ne touchait terre. À la fois viril, mais avec un soupçon de féminité, il émane de sa danse une sorte d'érotisme que l'on ne trouve chez aucun autre danseur. Quel exotisme ! Le public découvre Solor, l'amant asiatique de la Bayadère. Nureyev est vêtu d'une tunique indienne bleue dessinée par lui-même, la taille serrée dans une ceinture blanche, le front ceint d'un turban orné d'une aigrette. Superbe félin face à sa partenaire Olga Moiseva dans le duo de l'écharpe. L'homme-oiseau plane dans sa variation. Le public hurle à la fin de son solo. On n'a jamais connu pareil événement à Paris depuis les débuts de Nijinsky dans la saison russe, 50 années auparavant. Après les représentations, Rudolf Nureyev rejoint ses amis français qui l'emmènent dîner et fêter son succès. Il déjoue les plans de surveillance imposés par les autorités. Avec lui, la danseuse étoile Claire Motte, le chorégraphe Pierre Lacotte et Clara Saint. Clara est la future belle-fille du ministre de la Culture, André Malraux. Son fiancé, Vincent Malraux, fils cadet du ministre, est parti quelques jours avec son frère aîné dans le sud de la France. Mais il n'en reviendra pas. Clara, elle, découvre la troupe du Kirov. Elle accompagne Rudolf dans ses sorties. Il se montre en public, librement. Ils n'ont que faire des regards critiques. Le danseur n'hésite pas à confier qu'il étouffe au théâtre. Mais il sent la surveillance du KGB se faire plus pressante autour de lui. Ses collègues le préviennent, lui demandent d'être prudent. En vain. Nouriev est assis dans l'autocar qui conduit la troupe à l'aéroport. Arrivé au Bourget, il rejoint ses amis pour prendre un dernier verre, puis se dirige vers la file prête à embarquer à destination de Londres. Mais on l'en écarte. Il n'est plus du voyage. C'est l'avion de Moscou qui l'attend. « Khrouchtchev veut vous voir danser », lui dit-on. Puis l'un d'entre eux rajoute que sa mère est malade. Rodolphe Nouriev comprend et lève les quatre doigts en travers, en direction de ses partenaires ballerines. À 15 ans, il quittait sa famille pour rejoindre la troupe du Kirov. Ce 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget, Nouriev accomplit son plus grand saut de la liberté.
À réécouter sur francemusique.fr.